Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
C'est l'actualité française qui occupe la une de ce magazine. La France, où le combat pour la sauvegarde du mariage et de la famille suscite une vaste mobilisation. Il s'agit d'un débat anthropologique et sociétal aux multiples enjeux, nous dira le porte-parole des évêques. La France, où Marseille, capitale de la culture, se prépare à revêtir ses plus beaux habits. Monseigneur Georges Pontier, archevêque de la ville, a invité les chrétiens à prendre part aux festivités. L'Église s'associe à cette initiative. Dans ce magazine, nous évoquerons une fois encore les difficultés rencontrées par les chrétiens au Vietnam et en Terre Sainte. Et nous verrons qu'au Canada, les évêques sont solidaires des peuples autochtones. La manif pour tous, organisée par un collectif d'associations dimanche à Paris, devrait rassembler des centaines de milliers d'opposants au projet de loi du mariage pour tous, dont l'examen va s'ouvrir la semaine prochaine devant l'Assemblée nationale. Les évêques n'ont pas donné de consigne nationale, mais si chacun réagit à sa manière, tous convergent dans l'analyse. Selon le porte-parole de la conférence épiscopale, Mgr Bernard Potvin, la situation est préoccupante. Il est donc essentiel de rappeler à la société ses fondamentaux. Quant au différend très médiatisé qui a opposé ces jours derniers le ministre de l'Éducation Vincent Peillon au secrétaire de l'Enseignement catholique Éric Delabarre, le porte-parole y voit une énergie gaspillée et une polémique tout à fait inutile. Mgr Bernard Potvin, interrogé par Manuela à Fidji.
Je ne suis pas inquiet parce que j'ai confiance dans le bon sens de l'opinion publique. Le sujet est tellement un sujet sociétal. Les personnes de bon sens savent que la famille, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Au-delà des appartenances, au-delà des clivages, et évidemment l'Église catholique prend une participation indéniable, explicite, parce que comment pourrait-elle être indifférente à ce mouvement populaire? Mais elle n'est pas organisatrice. Les évêques, vraiment dans leur liberté, dans leur prière, font les choix qu'ils veulent. Tout évêque se situe pleinement en communion avec ce qu'a dit le cardinal 23 à Lourdes, pour redire vraiment une opposition au mariage pour tous, mais en même temps avec, c'est tout à fait légitime, une manière de le signifier qui est très personnelle. Et tout ça ne m'inquiète pas, moi j'ai confiance dans un bon sens populaire, les heures sont graves, et il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel c'est que veut-on faire demain de la famille, que veut-on faire demain de la filiation, nous sommes tous concernés, et évidemment catholiques, d'une façon encore plus particulière.
Ces dernières semaines ont été marquées par des tensions entre le gouvernement français et l'Église catholique de France. Comment analyser ce phénomène? Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de nouvel anticléricalisme, d'une nouvelle conception de la laïcité, ou est-ce qu'il s'agit d'un affrontement entre deux modèles de société?
En tout cas, de la part de l'Église catholique, il n'y a aucun désir de polémique. Il y a eu en début de semaine, effectivement, des choses absolument navrante dans un procès qui était fait contre le secrétaire général de l'enseignement catholique qui n'était vraiment pas fondé parce que il avait écrit un texte que moi je trouvais très très clair et très respectueux du périmètre de la tutelle de l'éducation. Il y a eu vraiment là de la polémique totalement inutile. Les enjeux de la famille et de la société sont trop grands pour qu'on reste dans de la polémique. Il y a quand même, je me permets de le rappeler, quand même dans l'opinion publique aujourd'hui, un appel à des urgences beaucoup plus graves comme le chômage, la dette, comme la dépendance des personnes âgées. Ce sont des sujets graves sur lesquels les Français aimeraient bien qu'on consacre notre unité nationale. Et je trouve d'autant plus déplorable qu'on soit en train de les diviser sur des réformes sociétales qui ne sont revendiquées en termes de priorité que par 7% des Français, ce qui est quand même révélateur. Tout à fait prioritaire uniquement par 7% des Français.
Selon vous, quel doit être le message de cette manifestation pour tous?
Les temps sont très préoccupants. Nous avons à témoigner d'une espérance et à rappeler à cette société qu'elle est d'autant plus fragile qu'elle doit faire très attention à ses fondamentaux. Or, la famille est quelque chose d'irremplaçable, c'est un joyau irremplaçable. Tous les anthropologues le disent. Rome vient de redire son soutien à l'Église en France par rapport à sa position. Et je peux vous dire que les catholiques en France sont très touchés par ce soutien que Rome a bien voulu faire quant à la position de l'Église en France. Et nous touchons là à l'essentiel pour l'avenir de l'homme. Si nous voulons respecter les générations à venir, nous avons à vivre ensemble, à préserver. Et j'espère vivement que dans le mouvement du 13 janvier, dans l'analyse qui sera faite du 13 janvier, j'espère vivement qu'une certaine raison voudra bien l'entendre.
C'était le porte-parole des évêques de France, Mgr Bernard Potvin. Parmi les évêques qui seront présents dimanche à la manifestation contre le projet de loi gouvernemental figure le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Le primat des Gaules reconnaît que la politisation est inévitable, mais il veut dire son refus d'un projet qui dénature le mariage. Dans un entretien au magazine Slate.fr, il note qu'il s'agit d'une manifestation qui vient du fond de la société elle-même, qui dépasse largement les cercles et les structures et qui déclenche une forte mobilisation. L'archevêque de Lyon rappelle par ailleurs que la loi ne devrait pas se limiter à entériner des situations de fait. Je vous propose d'écouter à présent le reportage d'Anthony Torzac à Nantes.
Affiches dans les grandes villes, tracts à la sortie du métro parisien, sites internet, blogs et réseaux sociaux, la mobilisation du collectif La Manif pour tous semble payer. À deux jours du défilé parisien, 900 cars sont complets au départ de toutes les régions françaises. 5 rames de TGV ont également été affrétées. De l'aveu même de la SNCF, la Société française de chemin de fer, les réservations de familles nombreuses sont importantes pour la journée de dimanche. Sur les deux seules régions de Bretagne et des Pays de la Loire, de forte tradition chrétienne, 200 cars ont été affrétés pour transporter les participants à la Manif pour tous. Blandine Crisman est membre du collectif d'organisation.
C'est une mobilisation qui prend de l'ampleur, parce qu'on voit bien que depuis que les gens sont rentrés de vacances, on a énormément d'inscriptions, que ce soit sur le site, je crois qu'on a des pics à 100 inscriptions par jour. En fait, je crois qu'au départ, les gens ne se rendaient pas compte des conséquences du projet de loi, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était pour quelques-uns et que ça ne nous retirait rien finalement, un peu comme l'école libre, ça nous retirait quelque chose et donc ça avait mobilisé fortement. On s'est aperçu finalement que ce projet de loi, il touche tout le monde, il touche le mariage de tout le monde, il touche la filiation. Et là, les gens commencent à se rendre compte que finalement, ce n'est pas un projet anodin.
Combien seront-ils à Paris ? Le collectif La Manif pour tous n'avance pas de chiffres, mais rêve tout de même de toucher du doigt la même mobilisation de celle de 1984 pour l'école libre. À Nantes, Anthony Torzec pour Radio Vatican.
Interrogé ce vendredi matin sur Europe 1, le grand rabbin de France a pour sa part indiqué qu'il ne se joindrait pas à la manifestation de dimanche et qu'il n'appelait pas non plus la communauté juive de France à le faire. Chacun est libre dans son âme et conscience. Et à l'occasion de sa rencontre traditionnelle avec le corps diplomatique en ce début d'année, François Hollande a adressé ses vœux respectueux au pape. Le chef de l'État français répondait au nonce apostolique à Paris, Mgr Luigi Ventura, doyen des ambassadeurs, qui lui avait présenté les vœux de l'ensemble du corps diplomatique. « Je veux à mon tour vous demander d'adresser au pape Benoît XVI mes vœux les plus respectueux pour l'année qui s'ouvre », a répondu François Hollande après avoir salué le caractère élevé des propos du nonce. Marseille sera donc sous le feu des projecteurs en cette fin de semaine à l'occasion du lancement de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. À la tombée de la nuit samedi, la parade des Lumières donnera le coup d'envoi des festivités. Au programme, durant ces deux journées, concerts, expositions d'art contemporain en plein air, chasse au trésor ou encore spectacles de feu et de cirque. Cette année sera ensuite jalonnée de différents événements s'adressant aux plus petits comme aux plus grands. Au total, quelques 400 manifestations artistiques et culturelles sont prévues et l'Église n'est pas en reste. Les diocèses de Marseille, d'Aix et Arles et de Fréjus-Toulon se sont mobilisés. Parmi les moments forts, la messe solennelle dimanche 13 janvier en la cathédrale de la Major, chantée en provençal par 200 choristes, le lancement le 5 février prochain d'une exposition sur la Bible, patrimoine de l'humanité, et l'organisation du 6 au 9 juin, en lien avec le Conseil pontifical de la culture, du Parvis du cœur sur le modèle du Parvis des gentils. On en parle avec le père Jean-Marc Aveline, vicaire général du diocèse de Marseille, en charge des initiatives de l'Église.
L'Église de Marseille a décidé d'apporter son concours. L'idée, c'est pas du tout de faire un 2013 catholique en parallèle, hein, mais voilà, d'être présent et d'organiser éventuellement quelque chose en complément. Mais le premier souci, c'est vraiment d'apporter son concours à certains événements, surtout quand on le lui demande, ce concours. Par exemple, la grande fête d'ouverture samedi soir, qui est sur le thème d'une grande clameur qui fait disjoncter la ville et qui la rallume autrement et qui lance les festivités. Là, nous avons eu beaucoup de travail avec les régisseurs qui s'occupent de cette fête-là parce qu'ils ont voulu que les églises du centre-ville participent à la clameur. Donc, après les cornes de brume des bateaux, il y aura le bourdon de Notre-Dame de la Garde, et puis celui de la Major, et puis les différentes églises du centre-ville qui feront sonner leurs cloches à des horaires dont nous avons convenu avec eux, etc. Donc là, c'est une contribution. C'est d'abord un état d'esprit où l'église est partenaire de ce grand événement pour la cité, qui en a bien besoin, et du coup, fera ce qu'elle peut pour que ce soit une réussite.
Cette initiative, c'est l'occasion de valoriser le patrimoine chrétien, d'amener les populations à rencontrer aussi les gens d'église.
Je crois que si on soigne bien l'accueil, si on joue le jeu de la mise en valeur culturelle de la ville et de la région, si on multiplie les occasions d'invitation, de rencontre, il y a certainement aussi une grande chance pour l'annonce de l'évangile à l'occasion de cette année culturelle. Et puis je crois que montrer que la communauté chrétienne est préoccupée aussi par la prospérité de cette ville, par le bien-être de ses habitants, par le respect de la dignité humaine ici, enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on peut vraiment faire passer. Il y a vraiment des occasions qui vont pouvoir se présenter à nous et on va essayer de ne pas les rater.
Marseille, on le sait, connaît un certain nombre de difficultés. La culture comme lien social?
Oui, je crois que la culture est aussi un lien social. Nous, dans l'action qu'on est en train de préparer aussi pour le mois de juin, donc avec le Conseil pontifical de la culture, un parvis des gentils à la mode marseillaise, si je puis dire, hein, qui s'appellera un parvis du cœur, et dont le thème sera humanisme et religion, là, du 6 au 9 juin. Mais là, on a aussi associé le Secours catholique parce qu'on voudrait promouvoir aussi l'idée selon laquelle, d'abord, les plus pauvres aussi doivent avoir accès à la culture. Ce n'est pas une question d'élite. Et donc ça, c'est très important aussi de le faire valoir. Et puis ensuite, de faire valoir aussi que la multitude d'étrangers présents à Marseille, des gens venant d'ailleurs, de différents continents, avec une multiplicité culturelle très grande, et parfois très peu de moyens, parce que ceux qui viennent ici, souvent ils viennent ici à cause des difficultés économiques de leur propre région d'origine, et que cependant, la question n'est pas simplement qu'ils aient accès à la culture, c'est qu'on leur permette aussi de développer les richesses culturelles dont ils sont porteurs. Moi, j'aimerais aussi que ça permette à notre ville de renouer avec sa vocation la plus profonde, qui est une vocation d'échange, de rencontre de culture. Le mythe fondateur de la ville est déjà un mythe d'échange entre les Grecs venant de Phocée et puis les habitants locaux. Donc voilà, qu'on retrouve cela et que ce qui fait la richesse de cette ville, en dépit de toutes les mauvaises images qu'on a à son sujet, ce qui fait la richesse de cette ville, sa capacité dans le vivre ensemble, tout ce qu'elle peut permettre de relations, d'échanges entre les cultures différentes et les religions différentes aussi, tout cela soit valorisé à l'occasion de cette année capitale. Évidemment aussi que si ça marche bien, ce sera bon pour la prospérité économique et que, vu les difficultés très grandes d'une bonne part de la population marseillaise, si ça avait aussi des retombées positives de ce point de vue-là, ce serait vraiment très bien. Et puis nous, bien sûr, nous essaierons d'accompagner cela, de faire en sorte que ce soit l'occasion aussi d'une annonce de l'Évangile à travers ce que nous pourrons proposer.
Le père Jean-Marc Aveline, interrogé par Hélène Destombes, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Nous vous le disions hier dans ce magazine, une délégation de 8 évêques catholiques d'Amérique du Nord et d'Europe a dénoncé à Jérusalem l'injustice de la barrière de séparation israélienne en Cisjordanie qui empiète notamment sur les terres des institutions religieuses locales. Mandatée par le Saint-Siège, la coordination des évêques pour la Terre Sainte a pour vocation de mesurer sur place les questions et problèmes qui se posent à l'Église catholique dans une région marquée par les tensions politiques et religieuses. Un Français faisait partie de la délégation, Mgr Michel Dubost, évêque d'Évry. Notre envoyé sur place a recueilli son sentiment.
Nous avons découvert toujours plus combien les Palestiniens résistent et résistent pacifiquement sur 3 points. Il me semble que je vois se développer la prière. Et nous avons à Beit Jala, en particulier, devant une injustice qui est en train de se créer. Nous avons vu comment la communauté réagit en priant, parce qu'elle ne voit pas autrement ce qui peut la sauver. La deuxième chose, beaucoup d'ONG, beaucoup de services de santé sont aux mains des chrétiens. Vous avez 45% des ONG de la West Bank, de la Cisjordanie, qui sont chrétiennes. et 25% du service de santé qui est chrétien. Et je veux dire que c'est une manière de résister que de lutter pour les droits de l'homme et pour lutter pour l'homme. Et puis la troisième chose, c'est un énorme investissement dans l'éducation, quelquefois qui peut sembler disproportionné, puisque le patriarcat de latin a à l'heure actuelle deux universités, une en Jordanie, une à Bethléem. Mais de toute façon, on voit bien que pour beaucoup, l'investissement majeur, c'est sur les hommes, et en pensant que ces hommes, tôt ou tard, feront la paix.
Quand on arrive pour la première fois, comme je l'ai fait, vous avez parlé du mur, c'est ce qui frappe le plus, le mur. Ça vous choque ou chaque fois que vous venez, ou vous avez l'habitude de voir ça, ça vous frappe pas?
Le mur, pour moi, c'est comme une blessure au cœur de la main. C'est-à-dire que c'est ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas, c'est qu'on ne peut pas se servir de la main. Et on voit bien que ce pays qui a beaucoup de richesses, beaucoup de potentialités, et du côté israélien et du côté palestinien, n'arrive pas à se constituer vraiment. Et il me semble que chaque fois que je vois ce mur, je pense à une blessure plus qu'à autre chose.
Ça, c'est assez fort. Ce pays, cette terre sainte où Jésus est né, a vécu et est mort, donne des sensations très fortes. C'est pas seulement le mieux, tout est fort ici, non?
Bien sûr, c'est très fort, mais cela nous interroge sur notre propre foi. Comment faire confiance en Dieu quand il n'y a pas d'espoir humain? Et ce que nous avons vu cette année peut augmenter si nous étions simplement des analystes, des sociologues, notre frustration de ne pas voir de solution poindre. Et il me semble que la situation nous renvoie à la force de l'Évangile qui place la résurrection après la mort. Et je crois qu'il nous faut croire aux puissances de résurrection. Et ça, c'est finalement beaucoup plus difficile qu'on ne le pense habituellement. C'est facile de dire Jésus est ressuscité, c'est facile de dire qu'il donne la vie, mais ici on est presque obligé de le croire si on veut avancer.
Monseigneur Michel Dubost, évêque d'Evry, interrogé à Bethléem. Au Vietnam, les autorités de Hanoï ont commencé le 3 janvier à démolir l'église et le monastère des Carmes. La propriété de ce complexe historique, bâti il y a plus d'un siècle, a été au centre d'une longue bataille entre les autorités politiques et la hiérarchie catholique. C'est un nouveau coup porté contre la communauté catholique après la toute récente condamnation de jeunes activistes. Officiellement, l'administration locale a décidé de raser au sol les bâtiments pour construire un hôpital de 5 étages. Mais l'agence de presse Asia News fait état de projets secrets bien différents. L'archevêque de Hanoï a adressé une protestation officielle au Premier ministre contre cette expropriation forcée. Les 4 précédentes protestations sont restées lettres mortes. L'Église dénonce les discriminations dont elle est victime et invite ses fidèles à prier pour la justice, la paix et la liberté religieuse au Vietnam. Au Canada, le Premier ministre a fini par accepter de rencontrer les représentants des populations autochtones qui protestent depuis un mois en bloquant les ponts et les chemins de fer. Les autochtones qui demandent que leurs droits et responsabilités soient garantis et protégés ont reçu le soutien du président de la conférence épiscopale. Monseigneur Richard Smith se félicite de voir les Amérindiens déterminés à prendre leur destin en main. Les manifestations de ces dernières semaines sont, selon lui, le signe encourageant d'un regain de détermination chez les autochtones à jouer un rôle déterminant pour résoudre leurs problèmes et leurs frustrations et pour être les sujets actifs et responsables de leur propre développement culturel, économique et social. C'est la saison des vœux et Benoît XVI a reçu comme chaque année la présidente sortante du Latium, Renata Polverini, et le maire de Rome, Giovanni Alemanno. Cependant, contrairement à la tradition en vigueur depuis l'an 2000, ils ont été reçus séparément en audience privée et pour la première fois, il n'y a pas eu d'échange de discours, alors que la campagne électorale a commencé en Italie pour les législatives de fin février. Quant au président de la province de Rome, Nicola Zingaretti, son mandat s'est achevé le 28 décembre. Il n'a donc pas été reçu par le pape. Les conseillers et autres fonctionnaires étaient également absents. En revanche, ils avaient tous été invités à assister aux vêpres présidées par le pape le 31 décembre dans la basilique Saint-Pierre. En même temps que les législatives des 24 et 25 février, des élections régionales auront lieu notamment dans le Latium. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Bonne fin de semaine à tous.